Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, face à la crise climatique, faut-il inventer l'école de la débrouille ? Une partie des lycéens français a fait grève vendredi dernier pour demander au monde politique d'agir plus fort et plus vite face au changement climatique. Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement mondial. Son ampleur témoigne d'une prise de conscience que d'aucuns jugeront naïve, mais qui n'en est pas moins spectaculaire. À défaut, c'est l'avenir qui le dira, d'être efficace. Si les élèves ont choisi d'agir en dehors du cadre scolaire, en séchant les cours, cela ne signifie pas que l'institution n'est pas concernée par les défis du réchauffement climatique. Le monde dans lequel nous vivons va être bouleversé. Dans quelle mesure, on ne sait pas encore, mais l'école doit s'y préparer et sans doute aussi y préparer. Oui, mais comment ? Faut-il par exemple réhabiliter les travaux manuels, enseigner la survie en milieu hostile, apprendre à consommer autrement ? Faut-il former davantage d'ingénieurs pour trouver des solutions d'avenir ? Faut-il revoir les programmes scolaires pour les mettre au service de cet objectif ? Et face à la crise climatique, faut-il inventer l'école de la débrouille ? Eh bien, pour y répondre, un dispositif un petit peu particulier aujourd'hui, puisque cette émission est enregistrée. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école, devant un public de lycéens. Il y a une vingtaine de classes de la région Île-de-France qui est présente au studio 104. Le thème du jour a été soumis à leur réflexion. Ils nous ont envoyé une série de questions que je vais poser à nos trois invités, à commencer par vous, Joëlle Lefort. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en CM2 en REP+. REP+, ça veut dire Réseau d'éducation prioritaire. Votre établissement se trouve dans le département de l'Oise. Vous êtes membre des Saventuriers. Les Saventuriers, qu'est-ce que c'est ?
Les Saventuriers, c'est un dispositif qui remet en place ou qui remet l'élève en place de chercheur. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est que tout élève, tout enfant, est par voie naturelle, si vous voulez, un chercheur, mais ce sont des choses qu'on a tendance à oublier quand on est élève.
Voilà, pour discuter avec vous, notre deuxième invité, c'est Vincent Verza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste activiste, c'est comme ça que vous vous présentez. YouTubeur, vous animez la chaîne Partager, c'est sympa, qui milite pour un monde plus durable.
Plus juste et plus durable pour tous, oui.
Et puis troisième invité, Anne-Sophie Novel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous avez signé un certain nombre d'ouvrages et de documentaires, je vais en citer deux. Au niveau des ouvrages aux éditions alternatives, c'était en 2013, La vie chère, mode d'emploi, chère S-H-A-R-E. Les lycéens qui sont très forts en anglais auront traduit. Et puis un documentaire télé qui passe demain soir, par exemple, à la RTBF. J'ai vu ça dans les programmes de la télévision publique belge. Les médias, Le Monde et moi. Alors vous êtes tous les trois engagés sur les questions environnementales. Avant de poser les questions des lycéens, moi j'aimerais d'abord savoir quelle part de votre engagement vous devez à l'école, Anne-Sophie Novel.
J'ai eu la chance de faire une thèse, un parcours académique au cours duquel j'ai étudié l'économie et la finance internationale. J'ai toujours été sensible à la question de l'égalité, de la justice sociale et de l'inéquité. Et avec ce parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne collaient pas. Et arrivé en thèse, j'ai demandé à mon directeur de laboratoire pourquoi dans les modèles de commerce et de finance, on ne prenait en compte que le capital et le travail et jamais le CO2. Et ça, c'était déjà en 2003-2004. Et donc, ça a un peu ancré en moi le désir de consacrer ma carrière après à la défense de ces sujets, parce que ces raisons, pour moi, expliquaient qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans le monde d'aujourd'hui.
Vincent Verza, est-ce que vous, c'est l'école qui vous a éveillé à ces questions environnementales ?
Pas du tout. Je me suis vraiment ennuyé comme un rat mort pendant l'essentiel de mon éducation, en tout cas jusqu'au lycée, et c'est à peu près dans mes études en relations internationales, lorsque j'ai pu finalement choisir mes cours, que j'ai commencé à me réintéresser à des trucs et qui effectivement nourrissent maintenant une compréhension de comment fonctionne ce vaste monde.
C'est peut-être en vous ennuyant, cela dit, que vous avez observé le monde qui était autour de vous et que vous en avez pris conscience, non ?
C'est très romantique, mais non, ce n'est pas le cas.
Et pour vous, Joëlle Lefort ?
Alors, comme les deux invités précédents, pareil, ce n'est pas l'école qui m'a amené à ça, mais plus véritablement un vécu familial. Ceci dit, ça fait déjà 40 ans quand même que l'éducation nationale pense à la place justement au développement durable. Et j'ai pas eu le sentiment, lors de ma scolarité, d'avoir vu cet espace pris en charge par les enseignants que j'ai pu avoir.
Alors peut-être sommes-nous un peu trop âgés aujourd'hui, sans doute que l'école a évolué et doit encore faire des progrès, imaginer aussi des choses pour justement éveiller, c'est peut-être le premier thème qu'on peut aborder justement avec vous, les consciences des élèves. Et je commence justement par une question de la classe de première ES du lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, qui pose cette question par rapport à l'âge à partir duquel il faudrait justement parler de ces questions de développement durable et d'environnement. Est-ce que c'est dès le primaire que ça doit se passer, ou bien est-ce que ça n'est pas un petit peu trop jeune? Bah, Joël Lefort, vu que vous êtes enseignante en CM2, vous êtes la plus appropriée pour répondre à cette question.
Eh bien, lorsqu'on est confronté aux enfants, on se rend compte qu'en fait, ils vivent dans l'immédiat, dans l'instant, qu'ils ont une très très mauvaise vision de ce qu'est le monde et de ses interactions. Et en fait, la première chose que l'on remarque pour pouvoir les toucher, c'est qu'il faut qu'on les touche sur le plan émotionnel. Le problème se pose quand on vit dans un environnement urbain, où là, la nature ne les touchera pas d'emblée. Et à ce titre, c'est souvent les médias et aussi les artistes qui utilisent les médias qui permettent d'amener cette sensibilisation au développement durable, mais pas de manière pragmatique, on va dire, pas dans un premier temps.
Mais de manière émotionnelle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Vincent Versailles? Est-ce que, par exemple, c'est sur le registre de l'émotion que vous jouez quand vous proposez des vidéos sur votre chaîne YouTube?
Je dirais pas ça. Non, moi, je donne effectivement des informations, et après ça, ces informations sont souvent scandaleuses. Donc effectivement, on se scandalise. Je pense que c'est plutôt normal. Mais par rapport aux enfants, je trouve qu'il faudrait commencer extrêmement tôt, tout simplement parce que effectivement, un des savoir-faire à développer, c'est le savoir-faire émotionnel, le savoir-être. Et en l'occurrence, ça commence depuis le plus jeune âge. Et un truc dont on va clairement avoir besoin, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est paralysé par la peur? Quelle est cette émotion? Est-ce qu'on peut la reconnaître? Et comment est-ce qu'on offre de l'empathie aux gens autour de nous? C'est un truc à faire, quoi.
Ça, c'est d'ailleurs une des questions qui est revenue aussi parmi celles qui ont été posées par les élèves, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser sans avoir un discours trop alarmiste. C'est une question de la classe de seconde du lycée Galilée de Cergy dans le Val d'Oise. Comment arriver pour des jeunes à faire la part des choses entre les discours alarmistes et les discours rassurants? Anne-Sophie Noël.
Bah, je pense qu'il faut un peu des deux. Moi, je suis partisane d'une éducation buissonnière. C'est une expression d'un éducateur nature qui s'appelle Louis Espinassous, qui habite dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées.
Ça veut dire ne pas aller à l'école?
Je pense que non. C'est surtout qu'on a constaté, il y a des chiffres qui sont sortis encore la semaine dernière, qui disent que 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors durant la semaine. On sait aussi qu'au Royaume-Uni, les enfants sortent moins que les détenus dehors. En fait, on est coupé de la nature. Et je pense qu'on peut recevoir un certain nombre d'informations. Il faut accueillir les émotions que ça génère. Il faut savoir en parler. Moi, je vois ma fille de 7 ans et demi, on en parle beaucoup, mais je l'ai emmenée sécher les cours vendredi. On a été à la manif ensemble, mais je l'emmène aussi très régulièrement dans la nature. Elle sait reconnaître les oiseaux. Elle a l'oreille qui est formée à ça. Ses 5 sens sont travaillés dès le plus jeune âge. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ancre profondément. Et qu'à force d'être coupé dans les milieux urbains, on n'a plus ce sens du rapport à la nature. Alors que si on sait observer, si on sait écouter, si on sait se décentrer, on fait travailler tout ça. Et à force d'avoir voulu couper, pour des raisons de sécurité, d'hygiène, dans les écoles, ce rapport à la nature, et ben finalement, on est complètement déconnecté. Et je pense que si on commençait par se réancrer, par s'enraciner, on arriverait ensuite à faire passer un certain nombre de notions et de sensibilisations.
Il y a d'ailleurs une suggestion du lycée Rabelais de Meudon dans les Hauts-de-Seine, la classe de seconde 7, et qui propose des voyages de sensibilisation pour montrer les conséquences du réchauffement pour nous qui habitons les villes et les zones non directement impactées. Joël Lefort.
Très clairement, c'est ce que nous on appelle les classes découvertes. Et véritablement, c'est là que le choc émotionnel prend toute sa dimension, parce qu'effectivement, même si les médias arrivent à toucher des enfants qui sont dans des endroits reculés urbains, quand on dit reculés, c'est par rapport à la nature, bah, effectivement, ces voyages sont les révélateurs de cette émotion qui est née à travers les images qu'ils ont pu percevoir.
Mais concrètement, ça peut ressembler à quoi? Vous faites quoi, par exemple, avec votre classe de CM2?
En classe de neige, par exemple, c'est 2 semaines, une ou 2 semaines, où on va complètement se déconnecter des apprentissages classiques pour se concentrer sur la contemplation et en même temps, donc la grande part d'observation qui est nécessaire à tout début de raisonnement et de construction de raisonnement par rapport au développement durable. Donc, c'est des visites de lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir d'habitude, et puis aussi de mettre les mains dans le cambouis, parce qu'en l'occurrence c'est pas ça, mais de mettre les mains au contact de la neige, de l'herbe, des arbres, des écorces, etc.
Vous faites la même chose, Vincent Verza, vous, pour vos vidéos?
J'en ai besoin.
Vous venez de Lyon, je crois, donc vous n'êtes pas très loin des Alpes, donc vous pouvez aller toucher la neige.
J'aimerais y aller un peu plus, il faudrait que je travaille moins pour ça. Mais je voudrais aussi juste, effectivement, je pense que il faut aimer la nature pour pouvoir la, pour vouloir la défendre. Par contre, je suis assez convaincu que ce dont on aurait besoin aussi, c'est des semaines de voyage dans le monde des responsables du dérèglement climatique et qu'on apprenne effectivement aux élèves pour qui et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et où est-ce qu'on en est arrivé. Et on pourrait, rien qu'à Paris, là, on se balade dans la Défense, on dit bah voilà, ici c'est Total, son bilan d'émissions de CO2 est supérieur à notre pays, donc vous avez ici un beau responsable, voilà, vous savez où les trouver si vous avez envie de vous plaindre de ça à un moment ou à un autre. Je pense que c'est aussi un apprentissage qu'on doit vraiment faire, effectivement, parce que c'est un des trucs qui me dérange beaucoup dans une manière qu'a l'école de parler de ces enjeux-là, c'est de dire « Ah bah, le but c'est protéger la nature ». Oui, mais en fait, la nature, on est en train de la détruire, elle se détruit pas toute seule. Il y a vraiment des personnes, des gens, un modèle de société, qui est d'ailleurs transmis largement par nos écrans et la télé qu'on regarde, qui fait qu'on détruit la nature. Et ça, il faut qu'on arrive à le déconstruire, y compris en classe.
Anne-Sophie Novel, vous qui avez rencontré un certain nombre de lycéens pour un prochain, alors je ne sais plus si c'est un prochain livre ou si c'est pour un prochain documentaire, mais en tout cas, ce qui est dit là, est-ce que ça rejoint les préoccupations des élèves que vous rencontrez ?
Alors, j'en ai rencontré avant la manif de vendredi, je les ai interrogés sur leurs ressentis, pourquoi ils faisaient ça, etc. Et certains, il y en a qui m'ont dit, en fait, la prof de SVT, elle nous parle de la 6e extinction, donc elle sait ce qui se passe, mais elle ne nous invite pas à aller manifester, on ne comprend pas. Donc le lien n'est pas fait entre l'information qui est délivrée. Je pense que l'école en apporte. Je ne suis pas pour le rejet. Je pense qu'il y a des énormes manques sur la prise de conscience de ces sujets. Mais si on étudie quand même un petit peu, il y a des choses qui sont délivrées. C'est juste les liens qui ne sont pas faits. Là, la connexion n'était pas faite. Et ils se plaignaient que la prof, ou alors on parlait du zéro déchet et des problèmes du plastique en cours d'espagnol ou d'anglais. Et donc, il n'y a pas de vision en fait globale. Je pense que moi, à titre personnel, j'ai eu un prof de philo en terminale et un prof de socio en prépa qui m'ont éveillé à tout ça. Mais ça a été des individus isolés qui ont pris ces sujets à bras-le-corps. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants, enseignants pour la planète ou profs en transition, qui sont des collectifs qui sont en train de se structurer, ce qui n'existait pas avant. Donc les choses avancent. Et il y a ces réseaux qui sont en train de développer et l'éducation au développement durable, et à l'environnement, et à la prise en compte améliorée de ces questions. Mais les lycéens ont conscience de ça. Mais ceux que j'ai rencontrés me disaient, on reste encore trop peu nombreux. On essaie de mettre en place un club autour de l'écologie. Il y a des profs en collège que j'ai rencontrés qui le font aussi, mais pour eux ça reste insuffisant. Donc voilà, au-delà du débat qui a été proposé par le ministre la semaine dernière, il faut encore travailler beaucoup pour que l'école l'intègre véritablement.
Oui, parce qu'on voit bien que cette conscience elle existe, cette sensibilisation elle existe déjà chez les élèves. Il y a une classe, je ne me souviens plus laquelle, hein, pardonnez-moi, mais qui nous a signalé un sondage qui a été fait par l'IFOP il n'y a pas très longtemps. 93% des 18-24 ans sont préoccupés par le changement climatique. Donc on voit bien que c'est pas forcément du côté de l'alerte auprès de ces générations qu'il faut travailler. Est-ce que ça serait peut-être pas davantage, d'ailleurs, puisqu'on parle de sensibilisation, Joël Lefort, du côté des enseignants qu'il faudrait le faire? Est-ce que c'est pas les profs qui ont besoin peut-être davantage d'être accompagnés aujourd'hui sur ces questions de développement durable et d'écologie?
Là, vous touchez effectivement un nœud qui est très problématique pour beaucoup d'enseignants, c'est que tous ne se sentent pas forcément en mesure de prendre la dimension des problèmes qu'il y a à régler avec les enfants, au moins, en tout cas, à mener une réflexion là-dessus. Et c'est vrai que du coup, on a pas mal de dispositifs quand même qui ont commencé à s'installer. Au début, ça a été la main à la pâte, qui concrètement mettait les élèves et les enseignants en situation pratique de résolution de problèmes.
Voilà, c'est une... Question scientifique, enfin, problème scientifique.
Voilà, hein, voilà, ça c'est le volet scientifique. Et puis bon, vous avez aussi donc le dispositif des aventuriers, qui a une vision beaucoup plus globale, systémique, des problèmes environnementaux, et pas seulement, puisque toutes les disciplines peuvent être investies de la même manière que les sciences, presque les sciences dures, si vous voulez.
Question de la terminale ESL du lycée Lacanal à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Vincent Verza, ça va être pour vous, enfin, pour qui voudrait y répondre. Faut-il un brevet climat sur le modèle du brevet secourisme pour apprendre aux élèves les gestes pour s'adapter au changement climatique?
Donc par exemple, péter du béton, ce serait ça un des gestes, parce que du coup comme il fera plus chaud, le béton ça garde la chaleur, donc nos villes seront invivables dans 50 ans. C'est ça un des gestes.
Mais alors expliquez-moi ce que c'est que ce geste péter du béton. Je vois pas en quoi ça consiste.
En l'occurrence, on le vit très très fort à Lyon. Il y a un mois de l'année où c'est absolument invivable, en grande partie parce qu'il y a pas de terre, il y a pas d'espace vert. Il y a vraiment juste du béton partout et le béton il accumule la chaleur. Et donc même en pleine nuit, il fait toujours une chaleur insupportable parce que le béton relâche sa chaleur. Et donc effectivement, un des moyens de s'adapter au changement climatique, c'est de débétonner nos villes. Donc un des gestes qui m'intéresserait, moi, ce serait celui-là. Mais
ah oui, donc vous verriez des hordes de lycéens et de collégiens, ouais, par exemple, aller dans la ville avec des maillets et puis
ouais, des marteaux piqueurs, vraiment, ça serait bien, hein, ça serait rigolo. Travaux pratiques.
Voilà, ça a l'air d'emporter l'adhésion d'une partie du public, en tout cas, si ce n'est la totalité.
Non, mais c'est vrai, ce qui est super compliqué, c'est qu'on a envie de... on nous a appris ça, hein, pour chaque problème, il y a une solution, pour chaque problème, il y a un produit que vous pouvez acheter, pour chaque besoin, etc. Et en fait, pour le changement climatique, c'est pas le cas. Les changements sont systémiques, il y a énormément de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, et une fois qu'ils sont enclenchés, on ne pourra rien faire. Je pense qu'on a beaucoup de savoir-faire et de savoir-être à développer. Mais j'ai du mal à les appeler des petits gestes parce que je trouve qu'ils remettent vraiment profondément en question la manière dont on vit et même la manière dont on se projette dans l'avenir. Lorsqu'on commence à se dire, tiens, je vais me déplacer sans pétrole et je vais devoir apprendre à faire mon pain, apprendre à faire toutes ces choses dont j'ai besoin au quotidien, mais pour lesquelles j'ai pris l'habitude de demander à d'autres de le faire. Ça veut dire se projeter dans un monde dans lequel il n'y a plus des flux constants d'approvisionnement, il n'y a plus la baguette tout le temps disponible dans mon chemin dans le métro.
Anne-Sophie Novel, apprendre à faire son pain, par exemple, à l'école, ça peut être une piste. Alors, on demande déjà beaucoup aux enseignants, hein, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, en tout cas ceux qui sont parmi nous, mais en tout cas, avoir peut-être davantage d'apprentissage d'ordre très pratique.
Oui, je pense qu'il y a deux choses par rapport à cette question du parallèle avec le brevet de secourisme. Moi, je trouvais ça assez rigolo. Tout dépend. Est-ce que c'est un brevet pour venir après une catastrophe, savoir comment agir? Et donc là, c'est lors des premiers réflexes. Est-ce que c'est juste du savoir-vivre, c'est-à-dire réapprendre à cultiver, planter une graine, bricoler, faire des choses de ses mains? En effet, comme disait Vincent, on est toujours derrière les écrans. On a oublié ce que c'était que d'utiliser sa main pour faire des choses. Et ça, je pense qu'on doit retourner vers ces apprentissages. Et dans mon entourage, j'ai observé beaucoup de cas de personnes qui ont fait des grandes études et qui un jour se disent, en fait, ça ne me sert à rien. Tout ce que je veux, c'est retourner, mettre les mains dans la terre. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte parce qu'on en aura de plus en plus besoin. Et après, en ce qui est de la validation des savoirs, il y a un test qui existe pour valider un niveau d'anglais qui s'appelle le TOEFL. Et il y a quelques années, il y a des personnes de Cage qui ont mis en place un test qui s'appelle le Sully test et qui permet, vous pouvez aller voir en ligne, de vérifier votre degré de connaissance sur les questions climatiques, développement durable, écologique, etc. Et ça, c'est le genre d'outils qui permettent aussi de peut-être mettre à niveau un niveau basique de connaissances et qui permettent de mieux prendre en compte ces questions. C'est la première fois que c'est tenté et c'est comme un TOEFL, mais appliqué aux questions de développement durable et de climat.
Joël Lefort, faire davantage de travaux manuels quand on enseigne dans le primaire, est-ce que c'est facile?
On va dire que la norme, c'est on va investir l'art visuel pour le faire. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies qui sont arrivées et aussi la démocratisation de ces nouvelles technologies, il y a une autre voie qui se présente aux écoles et qui est donnée par la programmation, en fait, dès l'instant où on peut modéliser beaucoup de choses avec des robots, donc avec des Lego et des choses de ce type-là. Parce que la difficulté pour les écoles,
par
exemple...
Mais là, ça ne va pas vous apprendre à faire du pain, là.
Non, non, tout à fait. Mais en tout cas, ça va les aider à se mettre en position de concepteur. Et plus seulement de producteur ou d'acteur ou de consommateur. Là, il va falloir concevoir. Et ça, c'est bien quelque chose qu'il faut qu'on développe en termes de compétences pour nos futurs citoyens. C'est de devenir des concepteurs et plus seulement.
Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, enfin, c'était peut-être au début du collège, mais on apprenait, par exemple, à se servir d'une machine à coudre. Alors, ça va vous donner peut-être une petite idée de la génération à laquelle j'appartiens, mais on faisait notamment des rondes serviettes, par exemple. Voilà, on apprenait ça. Est-ce que ça existe encore toujours à l'école, Joël Lefort? Ou bien est-ce qu'on préfère ne pas le faire parce que, on peut se piquer aussi avec une machine à coudre? Et on sait que les parents sont très attentifs à la sécurité de leurs enfants. Même si, quand on est au lycée, après, on peut tout faire, mais.
Alors, l'école primaire, c'est quand même un espace où on a une liberté pédagogique qui est assez excellente en termes de pédagogue. Parce que justement, ces petits travaux pratiques, comme vous les appelez, prennent leur place. On peut prendre la place dans le temps de l'école de faire ces choses-là. Et en fait, ça dépend de l'enseignant à qui on a affaire. Et ce qui est intéressant à l'école, c'est que le fait de rencontrer plusieurs ou d'avoir plusieurs enseignants, ça nous donne justement l'occasion, ou pour un enfant, de pouvoir rencontrer ces différentes pratiques.
Vincent Verza.
Je pense qu'à un moment, on va se retrouver coincé dans la situation où on va vouloir tellement changer l'école qu'elle accomplira plus une des fonctions principales de notre société, qui est de permettre à des individus de rentrer dans le moule, le cadre qui est fait pour eux, de manière à ce qu'ils contribuent à l'effort de société de production de richesses. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment au changement climatique, on réalise que en fait, c'est un problème de modèle de société et que du coup, on peut pas continuer à aller de l'avant de la même manière. Donc là, on va avoir un espèce de problème où on va avoir des enseignants qui disent à leurs élèves « Ouais, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et ma génération, on a carrément merdé. Donc je vous le montre. Et en même temps, après, je vous dis que la semaine prochaine, on a une dictée qui porte sur un truc qui en fait nous fait retomber dans l'ancien modèle d'avant. Et vraiment, je pense que cette contradiction-là, elle va s'exprimer assez rapidement lorsqu'on va aller dans le cœur du problème du changement climatique et se dire, oui, c'est un modèle de société qu'il faut revoir. Et par exemple, il faut que vous soyez libre, il faut que vous vous libériez d'énormément de choses. Comment est-ce que l'école peut transmettre le fait d'être libre tout en fonctionnant par l'évaluation et le contrôle? Comment est-ce que l'école peut apprendre la coopération, l'entraide dont on va terriblement avoir besoin à l'avenir, faire ensemble, tout en mettant en avant la compétition et le qui est meilleur que l'autre, quoi?
Bah, c'est sûr que c'est pas évident pour les enseignants à la fois d'assurer l'enseignement justement des programmes et puis aussi de participer peut-être à cette nécessaire émancipation. Bah, ce dilemme, certains l'ont peut-être vécu parmi les profs vendredi dernier lorsque certains élèves ont décidé de faire la grève pour le climat. Il y a une question d'une classe de seconde du lycée Galilée de Cergy dans le Val d'Oise. Pourquoi la semaine dernière l'information sur les mouvements et la grève n'a pas été diffusée dans le lycée, Anne-Sophie Novel?
Alors, il y a des lycéens à Bordeaux qui m'ont dit « Oui, on n'a pas pu mettre l'affiche sur la porte d'entrée du bahut parce qu'il y avait le mot grève. Et on n'a pas le droit de faire grève quand on n'est pas encore salarié. » Donc, c'était juste une formalité. Mais ils étaient soutenus en interne par tous les profs qui les ont encouragés. En fait, ils m'ont dit « C'est assez unanime et je crois qu'il n'y a pas eu trop d'opposition, qu'il y a une prise de conscience assez globale et que le fait que des élèves puissent s'en emparer, s'interroger, aller dans la rue pour ça, c'était grosso modo quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et moi, j'étais déjà incontente de ça. Après, je pense que voilà, sur ce qu'on disait sur l'esprit, pour moi, l'école, c'est un lieu où on doit accumuler de la connaissance. Mais le fait, en effet, de réfléchir en mode un peu, j'ai envie de dire, prototypage, c'est-à-dire faire un projet, et avant de passer trop de temps à réfléchir dessus, essayer de mettre les mains dedans, le faire prendre forme, etc., c'est aussi déconstruire un mode de pensée. Et je crois que c'est Rousseau qui disait, en fait, avant de faire des sages, il faut faire des polissons. C'est-à-dire l'école doit nous transmettre un certain nombre de savoirs, mais aussi de nous apprendre à sortir du chemin. C'est une boîte dans laquelle on doit apprendre à sortir de la boîte aussi. Et ça, je pense que c'est surtout apprendre à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, le savoir va tellement vite, notamment avec les nouvelles technologies de l'information, etc., on se sent souvent dépassé. Et on a besoin de savoir, poser les bonnes questions pour aller chercher la connaissance telle qu'elle est. Et demain, par rapport aux défis auxquels on va être confronté, l'important, ça sera pas forcément d'appliquer un savoir tel qu'on l'a accumulé, parce qu'il faudra toujours actualiser son logiciel, mais savoir poser les bonnes questions pour savoir se débrouiller.
France Culture. Du grain à moudre. Hervé Gardette.
Alors, je ne sais pas si dans le public, il y a davantage de sages que de polissons, ou bien si c'est l'inverse. Je rappelle qu'on est au studio 104, qu'on enregistre cette émission dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école, et qu'on se demande si l'école doit notamment apprendre à mieux se débrouiller par rapport à la catastrophe climatique. Dans le cadre des Saventuriers, donc cette association, ce collectif auquel vous participez, Joël Lefort, est-ce que le fait de désobéir, par exemple, de faire grève, alors la grève est une des formes de la désobéissance, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, que vous enseignez, ou bien vous ne vous aventurez pas sur ce terrain-là?
On en parle, donc même si effectivement on doit avoir une certaine neutralité, on informe quand même effectivement les élèves de ce qui se passe autour de nous, donc oui, on en parle. Maintenant, on ne dit pas quoi faire, ça reste la décision de l'élève de ce côté-là.
Anne-Sophie Novel, je reviens un instant vers vous. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que ce brevet climat pouvait ressembler à un brevet secourisme dans la mesure où il permettrait aussi de réagir en cas de catastrophe. Quand un événement brutal arrive, comme il y a pu y avoir par exemple des procédures qui ont été établies en cas d'attentat terroriste. Ça, on se dit que aujourd'hui en France, en tout cas en France métropolitaine, c'est quelque chose a priori qui ne va pas arriver, en tout cas dans un avenir proche. Il y a peut-être en tout cas l'inverse des pays pour qui c'est véritablement un souci du quotidien.
Il y a certains pays soumis à des tremblements de terre où on apprenait aux élèves dans les écoles à se comporter en cas de catastrophe naturelle. Donc, je ne sais pas si on est bien préparé à ce qui arrive, en fait. Je ne sais pas s'il y a une préparation. C'est tellement d'incertitudes que ça me paraît bien illusoire de croire qu'on pourra breveter un mode de réaction idéal. Je pense que c'est par une plus grande solidarité, par une ouverture à l'autre aussi, qu'on saura comment réagir. C'est-à-dire que les nouvelles sont tellement épuisantes. On parle beaucoup d'effondrement en ce moment. Je ne sais pas si c'est la bonne manière d'en parler. En tout cas, il faut en parler, mais il faut surtout montrer que derrière, c'est l'humanité en tant que telle qui est menacée et qui, du coup, doit aussi trouver les ressources. Et ces ressources-là ne sont pas forcément à travers des brevets ou des technologies. C'est à travers aussi plus d'humanité, de savoir-être, de savoir-vivre. Et c'est là que l'école, au lieu de nous apprendre à vivre pour consommer, c'est aussi se dire qu'il faut consommer pour vivre. Et donc, tout ce qu'on doit apprendre, c'est changer aussi cette façon de penser notre rapport au monde.
Sur la question de la technologie et de l'apprentissage des technologies, quelle est la place que vous lui faites, vous, Vincent Verza, sur votre chaîne ? Partager, c'est sympa.
Elle est encore à construire. C'est clairement un des sujets que j'ai envie de traiter. Et d'ailleurs, enfin, pour moi, c'est une des l'aspect des low tech, des technologies plus simples qui n'utilisent pas d'énergie fossile, par exemple, pour fonctionner.
Par exemple, une low tech ?
Une low tech, c'est un exemple plus concret, c'est aujourd'hui on utilise des énormes machines pour produire notre alimentation pour l'agriculture. Une low-tech, ce serait pas refaire ce qu'on faisait au Moyen-Âge avec la charrue et le cheval, mais toujours garder le cheval, mais utiliser un modèle de charrue ultra efficace, ultra performant sur la base de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ça, c'est les low-tech, c'est-à-dire qu'on est capable de produire en grande quantité pour satisfaire nos besoins et on n'utilise pas les énergies fossiles qui, on sait, détruisent notre climat. Et pour moi, ça, l'école, elle devrait déjà avoir radicalement changé. Je veux dire, c'est pas un problème nouveau, hein, le changement climatique. Et là, on a des appels alarmistes, littéralement tous les deux mois, de scientifiques qui disent en fait, on devrait pas être en train de faire une transition, on devrait faire un tournant au frein à main pour éviter qu'on crève tous sur cette planète. Donc pour moi, si on est cohérent par rapport à ça, l'école devrait déjà avoir radicalement changé, elle devrait déjà être en train d'apprendre des savoir-faire extrêmement pratiques, les écoles d'ingénieurs devraient travailler sur les low-tech, et le modèle d'éducation devrait être celui de l'entraide et du partage plutôt que de la compétition et du chacun pour soi.
Sur la question de la cohérence, une remarque de la classe de seconde 7 du lycée Rabelais de Meudon dans les Hauts-de-Seine. En seconde, nous avons travaillé sur le développement durable. Alors pourquoi les lycées ne sont-ils pas un modèle en termes, par exemple, de récupération d'eau de pluie, de réduction des produits emballés à la cantine, de recyclage systématique ? Je vous passe l'intégralité de la liste, Joël Lefort.
Pour les écoles, pour les lycées, pour les collèges, le problème c'est...
Ça vaut pas que pour les écoles d'ailleurs, hein. Ça vaut finalement pour l'ensemble de la société et pour toutes les entreprises, y compris Radio France.
Ça dépend de plusieurs paramètres. Un paramètre financier qui est simplement les budgets qui sont alloués aux écoles, aux collèges, aux lycées. C'est pas les mêmes sources de financement en règle générale pour financer ce genre de changement, surtout lorsque c'est les bâtiments qu'il faut casser ou reconstruire ou modeler différemment. Et puis il y a aussi les élèves n'ont pas encore compris qu'ils sont aussi pas compris ou n'osent pas prendre aussi leur part d'initiative. Voilà. C'est aussi à eux, finalement, parfois, de lancer des choses et de proposer des solutions auxquelles les enseignants et les personnels de l'école ou du collège n'auraient pas pensé.
Par exemple, plus d'emballage plastique à la cantine, Anne-Sophie Noël.
Oula, un gros sujet. J'ai en effet travaillé sur cette question il y a 2 ans. C'est tout un système qu'il faut décortiquer et qu'il faut mettre à plat sur le plastique dans les cantines. Comme on a délocalisé la production d'alimentation le midi, on a fait des cantines centralisées qui ont tout le monopole d'approvisionnement. Et donc, du coup, c'est des liaisons qui deviennent froides où l'alimentation et la nourriture est préparée 5 à 6 jours à l'avance, cuite dans des poches plastiques. Enfin, on commence à se rendre compte de l'aberration de ce qu'on a bâti, alors que si on essayait de retrouver des cuisines, ça coûte cher. Maintenant, aujourd'hui, on est aussi dans cette économie. Ça permettrait peut-être d'impliquer avec un potager, une culture locale dans l'école, de retrouver le sens de ce qu'on se met dans la tête et dans le ventre. Mais je pense qu'en effet, il faut interpeller les élus, mais c'est important de prendre les choses en main. Enfin, je veux dire, vous lycéens, dans votre lycée, si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont aberrantes, allez-y, interpellez, faites-le. Je veux dire, il y a trop de plastique, et ben on le dénonce et on s'engage. On veut avoir un potager, on met un potager, on veut récupérer l'eau de pluie. Enfin, vous avez un pouvoir d'interpellation. Vous êtes jeune, vous allez voir vos profs, le proviseur, mais au-delà de ça, l'élu régional qui est en charge des lycées. Et ben, je peux vous assurer que vous allez être entendu, surtout aujourd'hui.
Mais est-ce vraiment le rôle des lycéens de se mobiliser quand leurs parents ne font pas grève et ne se bougent pas particulièrement? Est-ce que c'est pas une manière pour les adultes de se donner bonne conscience? Ça, c'est une question de la classe de seconde du lycée Galilée de Cergy dans le Val d'Oise. Vincent Verza.
Mais tellement. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont fait grève, effectivement, le 15, là. Mais je sais aussi de la bouche de pas mal de parents qui ont dit « Bon, bah c'est bien qu'ils ont fait grève, mais c'est pas l'école buissonnière. Hein. Vendredi prochain, ils retournent au boulot. Et d'ailleurs, s'ils veulent vraiment être écolo, ils ont qu'à plus manger de viande et c'est pas la grève. » Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on on a un problème de double discours. C'est aussi la raison pour laquelle on change pas fondamentalement la manière de fonctionner de notre école. C'est parce qu'en fait, on croit que le changement climatique, c'est juste un discours. Il suffit d'en parler et puis on va s'adapter. Il suffit d'avoir un repas bio une fois par semaine. Et puis ça va suffire. Ça va pas suffire. Ça va pas du tout suffire. Et en l'occurrence, les adultes sont pas vraiment prêts. Ils sont plus lents à changer que vous, les jeunes. Et donc, ils vont vous dire oui, c'est important. Et en même temps, changez pas trop parce que moi j'ai une vision pour vous, etc. Enfin, moi je sais que ça a été super dur pour mes parents que je leur dise ben vraiment, je ne vois pas de scénario possible dans lequel j'aurai une retraite. Ce monde-là m'est interdit et je vois pas de scénario possible dans lequel j'ai une perspective d'avenir comme vous avez pu l'avoir. Donc juste mon monde sera pas le vôtre. Donc vous avez pas les solutions pour moi. Donc si je décide de faire grève pour essayer de créer un changement radical, bah je vais le faire grève autant de fois qu'il faut et c'est plus vous qui avez le pouvoir de me dire quoi faire.
Est-ce qu'à vos parents vous leur avez dit ceci? À quoi ça sert d'aller en cours si c'est pour avoir un job inutile sur une planète morte? Ça c'est cette phrase qu'on peut entendre sur une de vos dernières vidéos, Vincent Verza.
Ben carrément. Carrément. Et ça nous donne la perspective du changement radical qu'il faut faire. Et là, on comprend qu'effectivement, oui, il y a un problème de plastique. Et oui, ce sera pas du tout suffisant. Et qu'on a un travail devant nous, devant vous, qui est énorme. Et que personne ne sait faire, que personne n'a jamais eu à faire. On n'a jamais eu de problème de l'effondrement d'une civilisation comme on a actuellement devant nous. Et juste pour rebondir sur le fait qu'effectivement, on n'est pas dans un pays dans lequel le changement climatique va créer des grandes catastrophes naturelles, on ne va pas se retrouver intégralement sous l'eau. Mais ce qui nous pend vraiment au nez, je pense qu'il faut que vous le sachiez, c'est que dans un contexte de crise prolongée, avec des ressources qui sont de plus en plus difficiles à obtenir, ce qui nous pend au nez, c'est un gouvernement autoritaire, dictatorial, qui essaiera de garantir l'État de la manière la plus stable possible et fermera toutes les frontières et limitera nos libertés, etc. Et c'est entre autres pour ça que je trouve que l'école devrait nous apprendre à être libre et à être incontrôlable de manière à ce que, effectivement, cette période-là ne dure pas trop longtemps.
Joël Lefort, je vous vois acquiescer.
Oui, parce que là, en ce moment, ce qui se passe dans les classes, en l'occurrence, qui font partie du dispositif des aventuriers, c'est qu'on dit aux élèves, voilà, le moule est cassé. Et il va falloir non pas tout recréer de rien. Nous, on est là, les enseignants, pour vous apporter et vous montrer, faire signe, parce que enseigner, ça veut dire montrer le signe, montrer quels sont les éléments qui peuvent vous aider à concevoir et à développer des solutions nouvelles face aux nouveaux problèmes. Et du coup, on est aussi apprenant avec les élèves. On les accompagne dans cet acte d'apprendre et de se développer différemment.
On parle des enseignants, on parle des élèves. On a dit un petit mot des parents. Comment ça se passe avec les parents, Joël Lefort? Là aussi, la sensibilisation, elle est importante.
La sensibilisation est très importante, surtout que lorsqu'on met les élèves dans cette posture de concepteurs et de développeurs d'initiatives qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant, vous avez des parents qui viennent vous voir en vous disant que finalement, ce sont souvent des choses auxquelles ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir ou de discuter avec leurs enfants et qui, parce que leurs enfants s'investissent et les questionnent, et viennent aussi les nourrir aussi de cette réflexion, se mettent eux aussi à poursuivre ce questionnement. Et donc accompagnent leurs enfants dans ce dispositif, enfin dans cette manière de voir le monde.
Anne-Sophie Noël.
Moi, je rigole parce que dans les lycéens que j'ai rencontrés la semaine dernière, il y en a un qui, sur sa pancarte, mettait « Mes darons prenaient l'avion, ils n'avaient pas le temps de chercher une solution ». Et ça m'a fait rire parce que voilà, je trouve ça un petit clin d'œil. Son père était juste là et c'était une façon de dire « Bon, ben voilà, on est en train d'en parler, on est sérieux, on est appliqué et voilà ». Mais il ne faut pas attendre, en fait, parce que si on passe son temps à regarder les autres, à se dire « Ils n'agissent pas, on ne fait rien », hein, c'est ne surtout pas faire dans mon jardin ce que j'ai envie qu'on fasse chez les autres. Enfin, et moi, à titre personnel, à l'époque déjà, mes parents n'étaient pas convaincus de ça. J'aurais pu aller bosser dans un ministère. J'ai choisi une voie de traverse très dure. Ils ne comprenaient pas, mais je leur ai dit, pour moi, c'est juste. Et ce combat-là vaut qu'on le livre, qu'on se livre à ce combat-là. Mais
c'est pas une démarche isolée, hein, d'ailleurs. Il faut dire qu'il y a quelques mois, par exemple, quelques semaines, il y a des élèves de grandes écoles qui ont publié une sorte de manifeste en disant... Nous refuserons de travailler pour des entreprises qui ne sont pas exemplaires en matière environnementale.
Oui, et je pense qu'en effet, c'est des choix, ils sont forts. J'ai jamais rien reproché à mes parents, on en a beaucoup parlé, mais je leur ai dit, c'est mon choix, il est important pour moi, c'est un engagement, et ça sera pas le plus facile, c'est peut-être comme ça que je vais bien gagner ma vie, à l'image de ce que vous vouliez pour moi, mais en tout cas, je serai alignée et droite par rapport à mes valeurs, et je crois que c'est le plus important aujourd'hui.
Vincent Verza, vous avez un gros succès sur YouTube avec votre chaîne, je rappelle le titre, Partager, c'est sympa. Ceux qui vous suivent, je ne sais pas quel âge ils ont, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais enfin, j'imagine qu'il y a un certain nombre de jeunes, ils vous disent quoi par rapport à ces sujets?
Alors, j'ai une communauté qui n'est pas extrêmement jeune, à vrai dire, la majorité sont entre 25 et 35 ans. Mais, et d'ailleurs, je pèse pas trop dans le YouTube game par rapport à d'autres... sur Internet.
Donc appel au public du 104, hein, si vous pouvez faire un petit peu baisser la moyenne d'âge.
Abonnez-vous et tout. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que notre frein principal, nous, cette génération, c'est ça, c'est les smartphones, c'est Black Mirror. On passe environ 2 heures par jour à regarder ça, et il faut que vous sachiez que les YouTubeurs que vous suivez, les plus connus, les plus drôles, ils vous parleront jamais du changement climatique, ils vous parleront jamais de changements radicaux de société, et je le sais de très près parce que je les connais, parce que ça va pas avec leur business model. Leur business model, c'est vous vendre du temps de cerveau disponible, vous divertir pour faire un placement de produit et pour que vous soyez plus réceptif à la pub qu'il y a avant et après, qui concerne pas un changement de société très profond. Donc sachez ça. Juste, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de regarder des trucs marrants. Hein. Je suis aussi assez accro aux vidéos, mais juste avoir conscience que c'est pas parce qu'on le voit pas sur notre petit écran que le problème n'existe pas. Et peut-être que c'est justement parce que le problème existe qu'on le voit pas suffisamment sur notre petit écran.
Allez, une toute dernière question de la classe de terminale ESL du lycée Lacanal à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. L'école doit-elle apprendre aux élèves à vivre de façon plus frugale, voire doit-elle les préparer à une qualité de vie qui sera beaucoup moins bonne, Joël Lefort?
Ah, c'est amusant parce que c'est une discussion que j'ai eue hier avec mes élèves. Mais
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos élèves?
Très clairement, ils sont pas trop d'accord avec cette coercition qui se présente devant eux. Et de ce fait, ils essaient pour l'instant de contourner un petit peu justement ce qui est incontournable. Et il va falloir que malheureusement, ils se confrontent à un moment donné à l'irrémédiable.
Donc, vous leur avez dit quoi, par exemple, abordant cette question? Alors, dit demain, par exemple, au téléphone, tiens, ce qu'évoquait Vincent Verza, il faudra peut-être vous en passer.
On parlait d'abeilles et du rôle des pollinisateurs et des fleurs et du formidable pouvoir des fleurs. Et lorsqu'ils se sont, quand je leur ai dit que véritablement aujourd'hui les abeilles sont en voie d'extinction, donc ce que vous avez dans votre assiette très clairement ne sera pas ce que vous aurez dans quelques années dans vos sandwichs ou dans vos plats. Et là c'est quelque chose qui pour eux leur semble insoluble parce qu'effectivement ils n'ont pas encore assez de connaissances pour répondre à ce défi. Donc c'est la première réaction, c'est non, c'est pas possible, je veux pas le voir. Et puis, petit à petit, ça sera moi, mon travail, d'essayer d'amener les enfants sur la voie de qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Là, c'est en l'occurrence, ils m'ouvrent des voies d'exploration pédagogique qui sont assez, assez lourdes, mais intéressantes à questionner.
Eh bien, si vous le voulez bien, c'est sur cette ouverture pédagogique-là que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Anne-Sophie Novel, Vincent Verza et Joël Lefort, d'avoir participé à cette discussion. Alors évidemment, les liens vers les sites des uns et des autres, les travaux, c'est sur notre site franceculture.fr. sur la page du Grain à Moudre, depuis laquelle vous pourrez télécharger l'émission. N'hésitez pas également à nous écrire. Merci beaucoup aux élèves qui étaient présents des différents lycées d'Île-de-France ici au Studio 104, à leurs enseignants et qui les ont accompagnés. Merci à toute l'équipe du Grain, en particulier Fanny Richet, Antoine Tricot. Merci à Marina Sicanto et Christine Moncla du département éducation de Radio France. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Cédric Chatelus, Jean-Benoît Tétu, Laetitia Delgado et Inès De Bruyne. Demain, dans Du Grain à Moudre, nous poserons la question suivante. La France a-t-elle des leçons à recevoir en matière de droits de l'homme? Dans un instant, vous retrouverez Arnaud Laporte pour la dispute. Tout de suite, c'est l'heure du rappel des titres.